Bonjour à tous et à toutes. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. C'est important, c'est un moment important, la parole de Dieu. Très, très important. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le premier livre de Samuel, chapitre 20, verset 18. Alors, on va lire quelques versets, ce ne sera pas très long la lecture, et après je replacerai tout ça dans son contexte. 1 Samuel 20, verset 18. Jonathan lui dit, donc, dit à David, « C'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence, car ta place sera vide. » Donc l'absence auprès du roi Saül. « Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai trois flèches du côté de la pierre comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens. « Car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. » Mais si je dis au jeune homme, « Voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. » L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. Amen. Alors je replace ces quelques versets dans son contexte, parce qu'il faut comprendre, bien sûr, on n'a pas le temps de tout lire, ce chapitre 20, et même les chapitres qui précèdent, je vous encourage à le faire encore et encore à la maison, mais tout simplement, et c'est simple, le contexte, vous l'avez plus ou moins compris, concerne la situation de David en rapport avec le roi Saül. Et David, sa vie est menacée. Saül veut impérativement mettre à mort David. Et Jonathan, fils de Saül, bien est un garçon, un homme qui a une profonde amitié pour David. Il y a des liens très forts qui les unissent. Et David sait que malgré tout, il va pouvoir compter sur l'aide de Jonathan. Mais à cause des dangers qui vont menacer David, David, pas seulement ici, on va y revenir sur ce point qui nous concerne, que nous voulons méditer ce matin, mais David va rechercher main refuge auprès de diverses personnes, de divers lieux. Je cite le contexte. Par exemple, à un moment donné, il va se réfugier auprès de Nob, qui est donc où il y a le sacrificateur, pardonnez-moi, Akimélec. Il va ensuite chercher à se réfugier à Gath, chez le roi Achish, un roi philistin. De là, il va partir et il va se réfugier dans la caverne d'Adoulam. Et puis, une fois de plus, il va encore partir et se réfugier à Mispé, chez le roi de Moab. Et puis, il va encore partir un peu plus loin et il va se réfugier dans la forêt de Héret. Et nous rendons compte que tous ces épisodes de la vie de David démontrent une chose, c'est que cet homme, selon le cœur de Dieu, est un homme qui a besoin d'apprendre certaines choses. Il a beaucoup à apprendre. Et chacun d'entre nous, si je me permets de faire une application spirituelle, nous avons beaucoup à apprendre. Je voudrais vous dire ceci de suite, c'est qu'il y a un danger qui guette les croyants aujourd'hui, c'est celui de ne plus être enseignable. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous faisons ainsi chaque jour, c'est de laisser l'Esprit de Dieu, de laisser la parole de Dieu pénétrer notre cœur parce qu'il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Je voudrais juste ouvrir cette parenthèse. Un jour, alors que j'étais à cette époque-là, stagiaire, on ne sait pas, il n'y a pas si longtemps que cela, un collègue pasteur qui faisait partie de l'équipe pastorale dans laquelle je me trouvais, dans la ville de Montpellier, m'a dit un jour ceci, tu sais Laurent, et ce pasteur est aujourd'hui à la retraite, m'a dit, tu sais Laurent, avec tout ce que je sais, on ferait la préface d'un livre, et avec tout ce que je ne sais pas, on ferait un livre. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit, écoute, avec tout ce que je ne sais pas, on ferait même pas la préface d'un livre, et avec tout ce que je sais, on ne ferait pas la préface d'un livre, et avec tout ce que je ne sais pas, on ferait toutes les bibliothèques du monde. Mes frères et sœurs, on a besoin de réaliser que Dieu veut nous apprendre certaines choses. Quand David, et je reste sur ces versets que nous avons lus, va donc chercher refuge en attendant la réponse de Dieu auprès de ce lieu, de ce rocher, de cette pierre qui est appelée Ézel, il y a là quelque chose d'important à retenir, qui va être important pour David, qui est important pour nous. David a des besoins, je viens plus ou moins d'en parler. Et je l'ai dit, en péril, à cause des intentions meurtrières de Saül, David a besoin, il a besoin, c'est incontournable, il a besoin de connaître quelle décision prendre. Et pas seulement la décision à prendre, mais la décision à prendre, eh bien, converge vers le fait qu'il a besoin de savoir quelle direction prendre. Qui mieux que Dieu peut lui parler ? Dites-moi. Il arrive souvent que nous demandions des conseils, peut-être à un frère, une sœur, quelqu'un de confiance, mais je crois qu'il est important, bien sûr que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, mais qu'il est important et impératif de demander à Dieu, de demander au Seigneur sa volonté, la direction, quelle décision prendre. Mes frères et sœurs, ça a été rappelé ce matin par la prière, les dons spirituels. C'est vrai qu'il était question, à un moment donné, dans ce que j'ai entendu, de Josué. Et je suis toujours émerveillé quand je vois cet homme qui, à un moment donné, va devoir prendre la succession, pas de n'importe qui, c'est une sacrée pointure, la succession de Moïse. Pardonnez du peu, passer derrière un tel homme, il faut avoir la carrure spirituelle. Et Josué se rend compte que, sur le plan de sa propre vie spirituelle, sur le plan de sa personnalité, il n'a pas la carrure. C'est pas évident pour lui de prendre la suite de Moïse, d'autant plus qu'il va falloir conduire la deuxième génération d'Israël. Dans la première, il ne reste plus que Josué, donc lui, et Caleb. Mais il va avoir cette responsabilité de conduire le peuple d'Israël, cette fois-ci, au-delà du Jourdain, dans le pays de Canaan. Et en effet, cela a été rappelé, et puis c'est écrit dans le chapitre premier, Dieu l'invite afin de ne pas perdre pied, afin de garder le bon cap, afin de ne pas se perdre, de méditer la parole jour et nuit. Et là, Dieu lui dit, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises, tout ce que tu fais réussira. Mes frères et sœurs, David est un homme qui va apprendre que s'il veut réussir là, maintenant, et que s'il veut ainsi être équipé d'une manière efficace pour la royauté qu'il attend, il a besoin d'écouter Dieu afin de franchir les étapes que Dieu a prévues. Avec Dieu, on ne redouble jamais une classe. Il peut y avoir des surdoués à Sainte-Agne. Mais malgré tout, même si vous étiez un surdoué spirituel, eh bien Dieu ne permettra pas que vous redoubliez une classe, que vous ne franchissiez pas les étapes qui sont prévues pour vous. Donc, Que va faire David ? Il va s'entendre avec Jonathan. Et ils vont convenir d'un code. Entre tous les deux, un code. Et la pierre des ailes, auprès de laquelle David va devoir se tenir, c'est conduit par Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu dans ce qui est fait, dans ce qui est décidé, eh bien ça va lui servir de repère. Servir de repère à la fois pour David, servir de repère à la fois aussi pour Jonathan. Ce rocher, et c'est là que l'on est éclairé, son nom signifie quelque chose. Le rocher des ailes, ou Ezel, Ezel en hébreu, indique beaucoup de choses. Par exemple, première signification, ce rocher veut dire ce qui indique le chemin. Deuxième signification, ça se rejoint, c'est à peu près synonyme, la pierre de l'itinéraire. Et la troisième signification, c'est la pierre d'où part la route. Le chemin, l'itinéraire et d'où part la route, le début, le commencement, le départ. Mes frères et sœurs, nous avons souligné tout à l'heure que, selon le contexte, par rapport à la situation de David, qu'il est menacé de mort. Si vous lisez le contexte, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, effectivement, David, n'étant pas à sa place, autour de la table du roi lors du repas, premier repas, il ne dit rien, le deuxième, il réagit et dit « Mais où est David ?» Jonathan va tout simplement dire certaines choses à Saül, vous en avez parlé avec David, et là, l'Écriture nous dit que Saül va se mettre dans une colère terrible. Et là, Jonathan comprend ce que lui avait dit David, il comprend que son père a vraiment décidé de le tuer. Alors le code qu'ils ont défini entre eux va être réalisé. Et David va attendre la réponse que Dieu veut lui donner. Mes frères et sœurs, nous avons en ce qui nous concerne un autre Saül qui lui a décidé, tant que nous sommes sur la terre, c'est ainsi, il a décidé de nous tuer. Je ne parle pas sur le plan physique, je parle sur le plan spirituel. Et quand bien même nous appartenons au Seigneur, quand bien même nous avons la foi en Dieu, quand bien même nous sommes descendus dans les eaux du baptême, quand bien même je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je voudrais vous dire une chose, tout cela est très bien, mais ça n'enlève rien au fait incontournable que je dois veiller, prier, afin de ne pas tomber en tentation. Que je dois me tenir dans cette intimité, dans cette relation avec celui qui m'a aimé le premier, Jésus. J'ai besoin de garder les yeux fixés sur lui, parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout est fait pour détourner nos regards de sa personne divine, notre Sauveur, notre Rédempteur, et c'est si vite arrivé. Personne n'est à l'abri. Le seul abri qui peut me préserver, c'est Jésus. Le seul abri qui peut me préserver, c'est ce que Dieu nous a laissé, c'est sa parole. Le seul abri qui peut me préserver, c'est mon engagement, ma consécration, ma décision personnelle de rester là où Dieu me veut, c'est-à-dire dans sa présence. Alléluia. Parce que nous sommes menacés du matin au soir, du soir au matin par le tentateur, par le diable. Il est arrivé souvent de rappeler cela dans différentes églises où nous avons servi le Seigneur. Ça fait déjà, ça passe le temps, ça fait 26 ans que nous servons Dieu. Mais combien de fois n'ai-je pas vu des chrétiens, des croyants, réagir bizarrement ? On ne parlait pas du diable, mais la Bible en parle. L'adversaire, ce n'est pas mon frère et ma sœur. L'adversaire, ce n'est pas mon voisin. L'adversaire, ce n'est pas ceux qui sont encore dans le monde sans Dieu et que Dieu cherche pour les sauver en Jésus-Christ. L'adversaire, c'est l'adversaire de mon âme. L'adversaire, c'est le diable, c'est Satan, c'est le tentateur, c'est le malin. Bref. Et par le fait que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, menacés par le tentateur, nous avons besoin, j'y reviens, de prendre chaque jour les bonnes décisions, afin de ne pas tomber entre les griffes de l'adversaire. Dans de tels moments, puisqu'on a parlé de la pierre des ailes, et on va y revenir, mais ceci nous amène, cette pierre, ce rocher, à réaliser que, en Jésus-Christ, nous avons trouvé, et nous avons avec nous, le rocher par excellence, le rocher qui indique la route, le rocher qui me montre là où je dois aller, le rocher qui me montre là où je dois arriver. Et si il peut arriver parfois, dans ma vie chrétienne, dans ma marche spirituelle, peut-être de m'écarter un peu, merci Seigneur, par sa parole, par le Saint-Esprit, par tellement d'autres moyens que Dieu utilise, parce qu'il est le maître. Alors il veut ainsi, et il va ainsi, nous ramener dans la bonne direction. Vous savez, Jésus a dit, je suis, eh oui, le chemin, la vérité, la vie, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la pierre, c'est le rocher qui indique la route, qui indique le chemin, qui me montre l'itinéraire. C'est Jésus et en Jésus que nous trouvons tout cela. C'est en Jésus que nous avons la direction. J'ai souvent entendu, et c'est une vérité, qu'il fallait ne jamais oublier d'où nous venons. Il y a bien une chose, c'est que je me souviens d'où je viens. Je n'ai pas perdu la mémoire. Pas encore. Je sais d'où le Seigneur m'a tiré. Je sais ce qu'il a fait de moi. Je sais le miracle qu'il a accompli dans ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps. Mais je sais une chose aujourd'hui. C'est que si je suis passé pour recevoir autant de bénédictions par la croix, en Jésus, le rocher des siècles, il faut que chaque jour, je repasse par la croix. Je repasse par Jésus. Alléluia. Il est le fondement qui subsiste éternellement. Il est donc, je l'ai dit, et je le répète, le rocher des siècles. Il est celui qui nous montre le chemin que je dois suivre. Il m'indique la route. Vous savez, quand, et vous le savez comme moi, quand on arrive dans une ville, alors vous allez me dire aujourd'hui, pasteur, dans nos véhicules perfectionnés, il y a le GPS. Oui, attention, parce que si un GPS n'est pas, comment dire, mise à jour, dans certaines villes, il va vous dire de tourner à gauche, et puis il y a à peine 4 semaines, ils ont mis un sens interdit. Donc le GPS n'est pas parole d'évangile. Ceci étant dit, heureusement que dans les villes, il y a des panneaux d'indication quand on veut aller quelque part et qu'on ne connaît pas cette ville. Moi, je ne me méfie pas toujours au GPS, hein, donc vous avez compris pourquoi. Je regarde les panneaux pour aller ici ou là, bien, ça rend bien service, ça aide. Et je voudrais ainsi dire ceci, c'est que si ces panneaux dans ces villes nous sont utiles, nous rassurent en tant qu'automobilistes, quand on ne connaît pas très bien la direction prendre, Jésus, par sa parole, par son esprit, par sa présence, lui, le rocher des siècles, comme le dit le psalmiste dans le psaume 32, verset 8, il va nous instruire, il va nous montrer le chemin que je dois suivre, et il rajoute ceci, et je te conseillerai, et j'aurai également le regard sur toi, alléluia. Mes frères et sœurs, mes amis, il n'y a pas de meilleure pierre itinéraire que lui. La seule chose que je voudrais rajouter également, c'est, et je vais m'y arrêter quelques instants, c'est que dans ce cadre-là, qui est un cadre spirituel voulu de Dieu, il faut laisser le Seigneur agir. Ah, et je vais m'arrêter quelques instants là-dessus. Il faut laisser le Seigneur agir. David va avoir un besoin, celui d'apprendre à laisser Dieu agir. Quand il va fuir Saül, il va faire des erreurs. Quand, par exemple, j'ouvre une parenthèse dans le contexte, je l'ai cité tout à l'heure, quand il va aller chez les Philistins, auprès du roi Achish, laissez-moi vous dire que cette expérience, David ne va jamais jamais l'oublier. Parce qu'il n'était pas là où Dieu le voulait. Il était au milieu des ennemis jurés d'Israël. Il était là auprès de ce roi qui voulait la mort d'Israël. Et comme il s'est rendu compte qu'il a été dévoilé, découvert, alors il s'est fait passer pour fou. Et ça, à la fois, ça montre un homme qui n'est plus du tout à sa place. En plus, il ment. Il n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Et l'Écriture nous dit, et ça, c'est normalement une suite au message de ce matin, que j'apporte ailleurs, mais il nous est dit, il partit de là. Pour se rendre où ? Dans la caverne d'Adoulam. Et Adoulam, ça veut dire aussi certaines choses, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Et là, il va retrouver enfin la réalité de ce que Dieu attend de lui. Mes frères et sœurs, pour éviter ce genre de problème, il faut laisser Dieu agir. La question que je vous pose, je voudrais que ça soit quand même interactif, c'est laissez-vous Dieu agir. Alors certains sont honnêtes, disent pas toujours. Ça peut changer aujourd'hui. Merci Seigneur. D'accord ? Donc, allons un peu plus loin. Je vais employer une expression que tout le monde va comprendre. Quand je dis « laissez Dieu agir », je prends cette expression, je m'y arrête quelques minutes. C'est cette expression qui dit « lâcher prise ». Lâcher prise. Il y a un très beau cantique que j'aime. Très, très beau cantique. C'est entre tes mains. Vous le connaissez ? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne d'en reprendre rien, etc., etc. Ça, c'est formidable. Lâcher prise. Et il se peut que peut-être plusieurs, ce matin, dans ce lieu, ont du mal à lâcher prise. Vous savez, quand je monte dans un avion, je ne suis pas bien. Ça m'arrive de prendre un avion. Je ne suis pas bien, vous savez pourquoi ? Parce que je ne contrôle plus rien. Et puis en plus, quand je n'oublie pas certains faits divers... Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout remonte. Alors, ce n'est pas des fake news, mais il y a des réalités. C'est, dans ma tête, je me dis, tiens, et ça s'est passé il n'y a pas longtemps, je vous fais cette parenthèse pour vous montrer pourquoi je ne suis pas bien. J'ai entendu, c'est arrivé plusieurs fois malheureusement, que sur l'aéroport sur le tarmac, donc de l'aéroport de Saint-Denis à l'île de la Réunion, l'avion était prêt à décoller et les hôtesses se sont rendues compte que le pilote et le copilote étaient sous. Ça a été un fait divers, ça. Ça remonte il y a quelques mois en arrière. Des sous. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait, les hôtesses ? Elles ont dit à tous les passagers de se lever. Parce que si tout le monde est debout dans un avion, l'avion ne peut pas décoller. C'est interdit, donc il y a des règles. Et là, ils ont été obligés de faire demi-tour, etc. Bref, et vous pouvez imaginer la suite. Donc quand je monte dans un avion, je m'assois et je me pose la question, je me dis, est-ce que le pilote est à jeun ? C'est pas y a-t-il un pilote dans l'avion ? Il y en a un. Mais comment est-il ? Alors vous savez ce que je fais ? Je ne l'ai jamais dit à ma femme. Elle le découvre aujourd'hui, parce qu'elle prend souvent l'avion avec moi. Je prie pour le pilote. Je dis, Seigneur, s'il ne va pas bien, fais qu'il aille bien. Bref, point de suspension. On ne contrôle rien. Et vous avez remarqué, vous êtes peut-être comme moi, je ne sais, mais quand on ne contrôle plus rien, on n'est pas bien. Quand je conduis ma voiture, souvent les gens à côté de moi me disent, « Oh là, attention, tu vas trop vite. Ah, attention. » Ils ont peur. Je dis, « Non, ne vous inquiétez pas, je contrôle. » Le problème, c'est que quand je monte dans la voiture de quelqu'un, ça m'est arrivé avec votre pasteur il y a 2 ans en arrière, je lui ai raconté. Hein, là, des fois, j'ai peur. parce que je ne contrôle pas. Mais mes frères et sœurs, avec le Seigneur, il n'y a pas à avoir peur. Parce que le Seigneur Jésus contrôle tout. La Bible dit qu'il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. On pourrait continuer, hein, tous les attributs de Dieu. Et le psaume 139 décrit cette réalité. Je suis émerveillé quand je lis et relis et prêche encore sur ce psaume 139, de lire qu'avant qu'aucun de mes jours existe, Dieu les connaissait. Tous mes jours sont inscrits dans son livre. C'est-à-dire, si je dois mourir ce soir, c'était inscrit. Il faut dire, il est fada cet homme. Non, c'est la vérité. Pourquoi je dis cela ? Pourquoi le psaume 139 nous parle ainsi ? Pourquoi l'Écriture nous amène dans cette direction ? Pourquoi ce texte nous amène-t-il à réfléchir de cette manière ? C'est parce que Dieu veut que nous lui fassions totalement, totalement confiance. Alors peut-être c'est parce que j'ai pris un peu d'âge. Quand on est jeune, on est un peu foufou. On a l'impression qu'on peut faire des tas de choses, c'est vrai, peut-être, pourquoi pas. Mais mes frères et sœurs, vous qui êtes les jeunes, des jeunes dans cette église, et je le dis aux jeunes de toutes les églises, même si vous avez des forces, même si vous avez des capacités, eh bien, sachez que tout cela n'est rien comparé à ce que Dieu veut vous donner et faire avec vous. Pour qu'il puisse le faire, il faut que vous vous abandonniez. Il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous lui fassiez totalement confiance. Je t'instruirai, je rappelle ce verset, psaume 32, verset 8. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je le répète parce que c'est très fort sur mon cœur, peut-être ça parle à quelqu'un. Je t'instruirai, dit Dieu, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Permettez à Dieu de prendre réellement le contrôle de votre vie, de votre présent, de votre avenir. Même les jeunes, j'insiste avec les jeunes, nous arrivons dans une période d'examen, préparation des diplômes qui vont, je le crois, être décrochés, le bac, etc. Mais si vous faites confiance à Dieu, si vous faites votre part et que vous faites confiance vraiment au Seigneur, si vous lui donnez la première place en lui disant « Seigneur, je te fais confiance, je lâche prise, je m'abandonne, prends le contrôle », vous allez réussir, vous allez réussir. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras parce que tu t'attaches à ma parole, parce que tu t'attaches, dit Jésus, à moi, le rocher des siècles. Le rocher de ton salut, le rocher des délivrances. Alléluia! Celui qui va vous diriger. Mais lâcher prise, ça veut dire quoi? Tout d'abord, lâcher prise n'est pas se résigner. Lâcher prise n'est pas se défiler. Lâcher prise n'est pas abandonner ce que Dieu nous demande de faire, par exemple. Lâcher prise n'est pas renoncer par rapport à ce que nous devons accomplir. Lâcher prise n'est pas fuir ce que Dieu nous demande d'affronter avec lui. Lâcher prise, j'insiste avec ce mot, c'est lui faire confiance. Lâcher prise, c'est s'unir à Jésus. Lâcher prise, c'est l'abandon du désir, je le répète, de contrôle. Lâcher prise, c'est vaincre ses peurs. Je ne sais pas si vous aimez la randonnée pédestre, mais quand vous allez faire des randonnées en haute montagne, la première des choses qu'il faut faire, déjà, se renseigner par rapport à la météo, parce que ça change vite en montagne, mais la deuxième chose, si vous partez vraiment, notre montagne, il vaut mieux avoir avec vous un guide. Et le guide de montagne, il va inviter en fonction des endroits où on peut passer, il va inviter les clients qui sont avec lui, de le suivre vraiment, de suivre ses pas. Parce que lui connaît les endroits dangereux et ceux qui ne le sont pas. Surtout quand c'est escarpé et qu'à droite ou à gauche, il y a un précipice. Personnellement, le guide me dit « Vous me suivez ? Je le suis. » Je ne vais pas commencer à aller à droite, à gauche, faire... Non, je pense que vous feriez comme moi. Sinon, on devient fou. On est suicidaire. C'est pas sérieux. Il nous dit « Suivez-moi ». Et puis, même dans certains endroits, c'est ça qui m'intéresse aussi, dans certains endroits, le guide de montagne, qu'est-ce qu'il va faire pour une plus grande sécurité ? Eh bien, il va demander à ceux qui le suivent, aux clients, de s'encorder derrière lui, les uns avec les autres. Mes frères et sœurs, vous comprenez que nous devons faire la même chose. Puisque je dis depuis le début de cette méditation, de ce message, que Jésus étant le rocher, en quelque sorte notre pierre des ailes, il faut nous unir à lui, nous attacher à lui, nous encorder à lui. Il faut que ça soit lui qui nous dirige, et non pas nous qui dirigions le Seigneur. On peut tomber dans ce piège de dire « Seigneur, suis-moi ». J'espère que personne dit cela. Quoique, parfois ça peut arriver. Parce qu'on veut à tout prix quelque chose. Parce qu'on veut à tout prix aller dans une direction. Parce qu'on veut impérativement obtenir quelque chose. Mes frères et sœurs, ça c'est un piège qui permet au tentateur d'avoir le moyen de s'infiltrer. Le Seigneur veut que nous soyons sous sa protection. Il veut nous garder sous sa bonne main, sa sûre main, entre ses mains, entre tes mains j'abandonne. Tout, ma vie, mon présent, mon avenir, ce que tu as prévu pour moi s'accomplira. Je voudrais simplement vous dire ceci pour vous encourager à demeurer les yeux fixés sur cette réalité spirituelle. C'est que toutes les promesses, elles se réalisent. Mais je vais bien plus loin que cela. Toutes les prophéties bibliques. Alors bien sûr qu'il faut les étudier correctement, les prophéties. Ça se prend au sens littéral, hein, les prophéties. Parce qu'il y en a qui disent un peu n'importe quoi, parfois. Mais les prophéties bibliques concernant les temps de la fin, et nous y sommes. Mes frères et sœurs, certaines se sont accomplies à la lettre, déjà, et toutes les autres, quoi qu'il arrive, elles s'accompliront à la lettre. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Dernièrement, quelqu'un me disait... par rapport à l'aspect politique, on ne fait pas de politique dans nos églises, mais je dis cela, il disait, mais je suis choqué de ce que je vois dans le monde. Eh bien, je lui ai dit, ne soyez pas choqué, parce qu'il y a derrière tout cela le plan de Dieu. Relisez la Bible. Demandez à votre pasteur, vos conducteurs spirituels de l'aide. Mais je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, je comprends que Jésus, à un moment donné, étant... là, à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie, il va dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Que de chrétiens qui s'inquiètent et qui s'agitent. Le monde s'agite, le monde s'inquiète. Oui, parce que le monde n'est pas éclairé encore. Mais le croyant, le chrétien, celui qui est né de nouveau, il se tient sur cette réalité fermement établie, Roger, le rocher qu'est Jésus-Christ, pour être tranquille. Vous savez, j'ai servi le Seigneur pendant 6 ans à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, 6 ans. C'est-à-dire là où vous entendez parler de certaines choses terribles. 6 ans. Et les Marseillais, ils ont une expression à eux, c'est « tranquille, je suis tranquille ». Vous voyez ? Là, on est tranquille. Pasteur, vous êtes tranquille ? Je suis tranquille. Et ça, c'est l'expression marseillaise. Mais quelqu'un qui est en Christ, je ne vais pas dire tranquille, il est dans la paix. Il est dans la paix. Je prendrai juste un autre exemple pour augmenter notre réflexion par rapport à celle de David. C'est l'exemple d'Abraham, très simplement. Genèse chapitre 12, verset 1er, quand Dieu lui dit, eh bien, quitte ta patrie, ta famille, va-t'en, et je te montrerai. Je te montrerai où tu dois t'installer, où tu dois vivre. Je te montrerai. Abraham, quand il entend Dieu lui demander cela, mettez-vous à sa place. Il a un choix à faire. Soit il lâche prise, soit il ne lâche pas prise. Parce que il n'est pas facile ce choix. Partir, ça veut dire j'établis une rupture avec le cadre de vie qui est le mien et que je connais. Partir, c'est une rupture avec mes racines que je connais, avec l'environnement que je connais. Mais Abraham, il va quand même écouter Dieu, il va lâcher prise, et ça va permettre à Dieu d'être pleinement présent dans la vie d'Abraham. Je passe bien sûr certains épisodes, comme tous les hommes, on n'est pas parfait, parfois ça peut bloquer quelque part, mais le Seigneur, quand il voit qu'on est à l'écoute, il nous permet d'aller plus loin. Et Abraham va être pleinement conscient de la présence de Dieu dans sa vie, et cela va lui permettre de prendre en compte l'importance de l'action de Dieu dans sa vie. Alors je vais terminer. La condition pour trouver la route à suivre, je l'ai plus ou moins souligné. Mais je reviens sur le texte et le contexte de tout à l'heure. Chapitre 19, par exemple, verset 2, du même livre, 1 Samuel. À un moment donné, il est dit à David, « Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Reste là. » Chapitre 20, verset 6, « Je me cacherai dans les champs jusqu'au troisième jour. » Je vais rester là, je vais attendre. C'était un des dons spirituels de ce matin, d'ailleurs. Verset 19, chapitre 20, « Tu resteras caché près de la pierre. » À chaque fois, tu restes là. Jusqu'au moment où Dieu va te demander de bouger. Parce que si tu bouges trop tôt, ça va devenir dangereux. Si tu bouges trop tard, ça peut être aussi dangereux. Il faut, pardonner du peu, être toujours dans le timing de Dieu. Comment faire ? Dieu ne va pas nous mettre un chronomètre ou je ne sais quoi encore pour mesurer le temps. Non, c'est lui, par son esprit, parce qu'on est à l'écoute, parce qu'on lit sa parole, parce qu'on s'attend à lui, parce qu'on lâche prise, parce qu'on s'abandonne, parce qu'on lui dit « Seigneur, prends tout, prends ma vie ». Moi, il y a une parole, une phrase de cet homme spirituel, de cet homme de Dieu qui était William Booth, fondateur de l'armée du salut, qui disait chaque jour dans sa prière, il le répétait régulièrement, et d'ailleurs, j'ai fait mienne cette prière. Mais attention, pour la faire nôtre, il faut bien réfléchir à ce que je dis, parce qu'il disait ceci, « Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Allez-vous arriver à faire cette prière ? Peut-être vous la faites déjà. Seigneur, tu fais de moi, tu disposes de moi comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Il y a bien une chose que j'ai faite depuis que je suis dans le ministère pastoral. Je ne pars jamais dans une église pour m'y installer. Vous direz, c'est peut-être mon ministère. Chaque ministère est différent. Mais après tout, c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur. Et mon désir, c'est d'être là où Dieu nous veut. Aujourd'hui, c'est ici. Demain, c'est ailleurs. C'est lui le maître. Alors, je dis ceci. Cachons-nous. Mais pas pour rien faire. Vous l'avez compris. Cachons-nous en Christ. En Christ. Colossiens chapitre 3, verset 3. Notre vie, elle est cachée en Christ, en Dieu. Alléluia. Nous sommes en lui. Avec lui, que Dieu soit béni. Amen. Et les trois flèches tirées, C'est simple, je laisse ça sur votre cœur, à vous d'y réfléchir, de méditer là-dessus. Je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Et trois flèches tirées qui vont converger vers cette pierre des ailes et qui vont... ça va indiquer à David ce qu'il faut faire, vous l'avez compris. Mais pour moi, les trois flèches que nous devons jamais oublier par rapport à tout ce que nous avons médité ce matin, la première, c'est la parole de Dieu. J'ai souvent insisté là-dessus, et c'est normal, on insistera encore. Psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme... » Là, ça me fait du bien. Quand je dis ça aux jeunes, ils font... à mon fils, il me dit « Non, c'est pas pour toi, papa. » Mais si !« Comment le jeune homme, comment l'homme, comment la femme rendra-t-il pur son chemin, son sentier, son itinéraire en se dirigeant d'après quoi ? D'après des traditions, des rites, des je ne sais quoi. Non, d'après sa parole. La deuxième flèche, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. J'aime beaucoup ce passage. Qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, ne vous inquiétez. Ça rejoint ce qu'on a vu ce matin. Mais en toute chose, pas seulement quelques-unes, toutes. Faites connaître vos besoins à Monsieur Go. Ah, pardon, excusez-moi. Ah non, j'ai mal lu. À Monsieur Olé. Je l'ai vu au loin. Non, c'est écrit, faites connaître vos besoins à Dieu, au Seigneur Jésus. Par quoi ? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, soyez toujours reconnaissants, priez sans cesse. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs, on y revient, hein, et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième flèche, c'est-à-dire c'est la conviction intérieure créée par le Saint-Esprit dans la prière avec la volonté d'obéir à Dieu et d'être dans son plan. Et la troisième flèche, je la traduis ainsi, c'est les circonstances extérieures. C'est les circonstances extérieures qui confirment ce qui a été discerné. Voilà les trois flèches. J'y reviens pas, vous les avez notées, c'est peut-être enregistré. Très bien, gloire à Dieu. Que Dieu nous aide, je m'inclus. Que Dieu nous aide. Alléluia, je veux lâcher prise. On va rendre grâce à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui qui n'a de cesse de nous parler. Tu le fais tant de fois et par tant de moyens. L'Écriture nous rappelle que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui n'y prennent point garde. Ce matin, tu as parlé au travers des chants. Tu as parlé pendant le temps de louange et d'adoration. Tu as parlé par les dons spirituels. Et puis nous avons ouvert ta bonne parole. Et tu as encore parlé à nos cœurs. Seigneur, nous savons que nous sommes dans des temps difficiles. Mais Seigneur, nous avons là, comme nous l'avons entendu ce matin, tout pour être rassurés, pour être dans la paix, pour être dans la tranquillité. C'est dans le calme et la confiance, dit ta parole, que sera notre force. Je te prie, Seigneur, afin que chacun de mes bien-aimés ici à Toulouse-Sainte-Agne, à Toulouse, dans ce département, dans ce pays, puissions-nous tous être de ceux qui, Seigneur, en tout temps, te feront confiance. Tu es digne d'être écouté, d'être obéi, d'être aimé. Tu es digne que nous te suivions, parce que toi, tu ne trompes personne. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Amen.